Sen söyle.
On était resté la dernière fois au point de départ de l'expérience que nous faisons. Là, c'est la lecture directe de l'expérience. Nous constatons ces trois devenirs. Devenir de l'intelligence, on le constate ensuite. Hein. C'est là où on voit trop bien combien Aristote est quand même le philosophe du devenir. Parce que Héraclite, c'était la description. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Où on a une description du devenir et on reste dans le devenir. Et on dit voilà, c'est le réalisme, ça. C'est pas le réalisme du tout. Hein. La description, c'est pas le réalisme. Le réalisme, c'est de savoir ce qui est devant nous. Connaître l'autre, le connaître, pas seulement le décrire. Parce que si vous décrivez l'adversaire, ça n'avance pas grand-chose. Si vous décrivez celui qui est bon avec vous, ça n'avance pas grand-chose. Il faut le connaître. Et l'éveil de notre intelligence se fait à partir du devenir. Toutes nos expériences immédiates touche le devenir, toujours. Et c'est pour ça que c'est si facile de dire, comme certains disaient, les anciens philosophes pré-socratiques, de dire qu'il n'y a que devenir qui existe. Alors la réaction violente de Parménide, Héraclite Parménide, ces deux philosophes qui sont importants quand on veut comprendre un peu ce que c'est que la philosophie de la nature. Et Platon, continue Parménide. Alors pour Parménide et pour Platon, le devenir n'a aucun intérêt, pas de vérité dans le devenir. Donc, c'est le philosophe à double tête. C'est vrai pour le devenir, hein. Il y a deux têtes, point de départ alterne. On part de Paris pour aboutir à Marseille. Deux têtes. Point de départ et le terme. Et c'est vrai, tout venir implique un point de départ et un terme. Et puis, on voit la différence des différents venirs. Alors, on peut décrire. Je peux décrire le départ de Paris, je peux décrire l'arrivée à Marseille. Ça se décrit. Le devenir est le lieu de la description, hein. Il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est le lieu de notre expérience immédiate. Alors, c'est intéressant de décrire, mais ce n'est pas l'analyse. Et la philosophie est scientifique dans la mesure où elle analyse. C'est le propre de la science d'analyser. C'est le caractère propre de la science. La science analyse pour connaître. On divise pour connaître. Alors, la division va plus ou moins loin. On peut faire une division dans la description. Très facile. Et vous décrivez le résultat. Mais ça ne fait pas connaître la chose. On reste. La division touche toujours la quantité. On le verra. Alors on divise la quantité. Et vous restez dans la quantité. Et la description comme fondement de la quantité. Et là on voit le devenir, le point de départ et le terme. C'est intéressant de décrire. Merleau-Ponty dit, avec beaucoup de respect, dans le premier Merleau-Ponty, dit, la philosophie phéblogique, c'est la description. Et ça, c'est très bien vu. Et quelqu'un comme Merleau-Ponty, qui mettait avant tout la recherche, aboutit. Il arrive à un âge plus avancé que la description ne suffit plus. Il faut analyser. Alors il ne le dit pas, mais il découvre l'être sauvage. Alors l'être sauvage, c'est pas l'être civilisé. c'est sûr. C'est celui qui est au-delà de la description. Et c'est très beau de mettre que... C'est par la description que l'être sauvage devient domestique. Et c'est vrai. Quand on décrit quelque chose, on croit le posséder. Parce qu'on l'a décrit. C'est pas juste. On s'est approché de lui. La description, c'est une approche. Mais on ne pénètre pas. On regarde, simplement. Et on décrit. Alors, je peux décrire le devenir physique, le devenir artistique et le devenir du vivant. Et dans le désir du vivant, vous aurez le devenir de la vie végétative, le devenir de la vie sensible, le devenir de l'intelligence, de l'esprit. Vous voyez, le devenir prend tous les domaines. Toute expérience interne, c'est le devenir de l'esprit. C'est le devenir de l'imaginaire. C'est le dire le plus magnifique, l'imaginaire. L'imaginaire est fait pour le devenir. Et vous avez une description tragique, parce que ceux qui aiment le devenir aiment le tragique, et crient le tragique. Il y a des personnes comme ça, qui, elles ne peuvent pas être là sans qu'il y ait du tragique. Il y a des personnes au contraire qui pacifient, qui suppriment le tragique. C'est curieux ça. Vous voyez, alors il y aurait toute une philosophie de la description là, qui serait très intéressante à voir, qui serait en retour à Héraclite. Héraclite a fait ça. Et on le fait aujourd'hui de façon plus astucieuse qu'Héraclite. Héraclite, c'est encore un art très extérieur, c'est encore une philosophie très extérieure. Mais c'est quand même, il a compris que le devenir, ça se décrit. Alors on parle du phénomène. La description interne, c'est le phénomène, c'est l'événement. Vous portez en vous du tragique. Ah si, je me souviens, c'était la réflexion de quelqu'un que je connaissais bien à Fribourg, l'épouse d'un des professeurs. Et il y avait l'épouse d'un autre professeur. Là, il y avait la Suisse, des Hourcantons, et la Française. Et alors la réflexion, après la très grande souffrance, la maladie d'un enfant qui pouvait mener à la mort, alors la brave épouse de ce professeur suisse alémanique, c'est extraordinaire. Elle décrit admirablement sa souffrance. Moi, quand je souffre, je suis complètement inhibé, je me tais. C'est extraordinaire, cette Française, elle décrit sa souffrance. C'était très joli de voir les deux manières de pâtir, les deux manières en face de la en face du devenir intérieur. L'une, ah, ça lui permettait de décrire ça, le tragique. Les gens du tragique sont éloquents et font passer ça. Et puis il y a d'autres, plus intérieurs, qui quand ils pâtissent, ils se taisent. L'affectivité prend tout. De l'autre côté, l'intelligence pénètre dans le tragique, dans le devenir, pour le décrire. Et au fond, c'est ce qui explique pourquoi l'art et catharsis. L'art et catharsis, qui décrit le devenir. Il décrit la souffrance. Et en décrivant la souffrance, il nous aide à la porter. Il met un peu de lumière. Alors que la souffrance nous inhibe, nous projette sur nous. Et on porte ça. Quand on commence à décrire la souffrance, ah, on commence à en sortir. C'est un grand remède, ça. Et quelquefois, le psychologue est uniquement celui qui écoute. Ah, vous souffrez, oui, oui, vous n'arrivez pas. Alors, dites-moi un peu ce que vous souffrez. Puis alors, on décrit. Et ça me fait de décrire. Ah, comme ça me soulage, vous êtes merveilleux. Qu'est-ce que vous dites ? Et c'est vrai, ça. C'est tout à fait juste. Celui qui souffre et qui s'enferme et qui se tait, souffrira encore plus. Il se plonge dans l'immanence. Une immanence brutale qui pèse, qui pèse, qui pèse. L'autre, il décrit. Catharsis. La psychologie, catharsis. Ça purifie. Ça met un peu d'intelligence là-dedans. Et ça ne va pas jusqu'au bout. Hein. Ça monte les conditions sine qua non, pas les causes. On verra ça. Parce que ça, c'est très important. Alors, on constate ces trois devenirs qu'on peut décrire. La phénoménologie consiste à décrire ces trois devenirs. Le devenir dans votre corps, le devenir dans votre âme, au niveau vital, avec l'instinct, avec l'irascible. Parce que si vous avez un bon irascible, qui est la passion la plus proche de l'intelligence, vous pouvez dominer le mal, donc le devenir par lequel vous pâtissez, par l'irascible. On décrit. Et puis, le point de vue plus profond, spirituel. Bien voir ces trois devenirs. Devenir artistique, c'est déjà les yeux, c'est déjà devenir spirituel. C'est le premier devenir spirituel. Catharsis. Catharsis. La phénoménologie est une certaine catharsis. Et si la phénoménologie était prise uniquement comme une catharsis, ce serait très bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est, dans le monde d'aujourd'hui, ça peut être très utile. Vous prenez les autres là où ils sont, puis vous les conduisez. Mais il ne faut pas vous laisser conduire. Vous les conduisez. Si vous laissez conduire, vous partez dans l'abîme. L'abîme appelle l'abîme. On voit ce que c'est fait. C'est la dégringolade. Quand un corps commence à dégringoler, il entraîne tout avec lui. On lui donne la main, boum, il l'emporte l'autre sans courir avec. L'abîme appelle l'abîme. Et ça, c'est très fort. Alors qu'au contraire, il faudrait que l'art élève, mais déjà l'intelligence. Donc, trois espèces de devenir. Je peux les décrire. Et au point de vue phénoménologique, cette description me familiarise avec le devenir. Et quelquefois, cette description est tellement forte qu'elle m'emporte. Et je ne vois plus que le devenir. Alors que dans la vie intellectuelle, dans la vie affective, l'amour profond n'est pas tragique, n'est pas un devenir, il creuse. Et quand je me laisse aller à la joie du tragique, parce qu'il y a une certaine joie du tragique, à la joie du tragique, je suis emporté. L'intelligence, elle devient, c'est très vrai, mais il y a autre chose. Je juge. Le jugement est un point d'arrêt. Pas l'appréhension. L'appréhension est un point de départ. Je ne sais pas où je vais partir. Mais le jugement arrête. Je m'arrête. Je peux m'arrêter beaucoup plus profondément, comme je peux m'arrêter d'une façon très relative, et là je suis emporté. C'est la première chose qu'on doit constater, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. On doit constater ce point de départ du devenir. Tout autour de moi, tout en moi, est premièrement du devenir. Et même dans l'amour passionnel de la concupiscence, c'est un devenir. Toujours. Je vois quelqu'un qui m'attire. Ah, on va prendre un rendez-vous. Je vais vous revoir dans une... Oui, tout de suite. On veut tout de suite qu'un devenir engendre un autre devenir. Et ainsi de suite. C'est très curieux, intérieurement. Quelqu'un ne vous intéresse pas du tout. Alors, au contraire, faites juste l'inverse. Ah, quel trajet tu fais tous les jours. Faites sûr, je vais faire l'autre trajet, moi, qu'on ne se rencontre pas. Ce qu'on voit entre Lot et Abraham, c'est pas la première dimension de la charité fraternelle, tu vas à droite et je vais à gauche. Comme ça, on s'entend bien. Il n'y a pas de drame. On s'écarte. C'est la description, ça. Et c'est très riche. C'est très, très facile à écouter. Ce sont des histoires qui suivent des histoires, qui suivent des histoires, qui suivent des histoires. Et on reste toujours dans l'histoire, dans l'événement. Le philosophe, lui, pose la question. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela est? La philosophie commence par l'interrogation. S'il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de philosophie. Et on comprend la réaction d'un Merleau-Ponty à ce point de vue-là. Il est sûrement un des philosophes modernes qui ont le plus insisté sur l'interrogation. Et ça explique du reste. Ce premier Merleau-Ponty catholique, dans un cercle catholique d'étudiants anormaux, qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire, l'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans Aristote, c'est qu'Aristote interroge. En face de Platon, qui n'interrogeait jamais. C'est un autodidacte parfait, Platon. C'est un ange déchu, mais c'est un ange. Oui, parce que selon la doctrine de Platon lui-même, c'est lui-même qui le dit, donc il se raconte lui-même. Si l'homme se conduit mal, il s'incarne. Alors, Platon était incarné. Hein. Donc il lui-même reconnaît que son ancêtre, lui-même, son ancêtre c'est lui, parce qu'il ne rencontre jamais l'autre. Donc l'ancêtre c'est lui. On avale l'ancêtre. Par la métapsychose, on avale l'ancêtre. On n'a pas d'ancêtre. Notre grand-père, c'était nous. Et comme grand-père. Et puis on renaît. Alors, si on se conduit mal, comme ange, Platon, c'est un ange déchu. Il y a un livre merveilleux à faire là-dessus. Platon par lui-même. J'ai jamais vu ça. J'avais grande envie de faire ça. Platon par lui-même, un ange déchu. Alors, et alors, après Platon, l'ange déchu qu'est Platon, comment va-t-il naître? Son épouse. On va de chute en chute. L'abîme appelle l'abîme. Et vous allez de plus en plus dans la description. Aristote arrête ça. Ça devait l'agacer prodigieusement de rester tout le temps dans le devenir. Aristote ne voulait pas l'ange déchu, il voulait l'homme. Et Aristote a fait passer l'ange déchu à l'homme. En voyant que c'était naturel d'être uni au corps. Mais il n'était pas du tout haïssable, le corps. Le corps n'est pas haïssable. Tous ceux qui disent que leur corps est haïssable sont Platon. Sont des anges déchus. Dans les communautés, on mettrait la communauté des anges déchus, la communauté des hommes, la communauté des platoniciens. Le Père Maître doit pouvoir discerner, ah, toi tu es Platon. Eh bien, quand tu auras 45 ans, tu verras, tu comprendras que tu es un ange déchu. À 45 ans. Au Davision, non, ils ont tous une bonne petite peau de brebis, ça va faire. Alors, on a remis un petit vêtement de novice. Alors, on fait de l'Aristote. Oh, très bien, on fait de l'Aristote. Et puis pendant ce temps-là, le platonicien se tait. Puis quand il commence à reprendre un tout petit peu d'autonomie, oh, oui, l'enseignement, ça ne sert à rien. Vous êtes autodidacte. Je connaissais un frère qui, au début, était très docile. Puis le néoplatonicien est René, il dit ouvertement, non, non, foutez tout au tac. La seule chose qui me reste, c'est tout ce que j'ai moi découvert moi-même. Ce que les autres ont découvert pour moi, ça ne signifie rien. Du pot de renard. J'ai mis ça sur moi pour passer des examens. Passer des examens. Dans les examens, vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Il suffit de savoir. Vous avez le droit de répéter sans comprendre. Ça, c'est l'astuce. Des gens merveilleux aux examens. Ils répètent sans comprendre. La faute, c'est de l'examinateur. L'examinateur devrait décerner ce qu'on répète sans comprendre. Là, il y a des petites astuces. C'est très facile à déceler. Des petites astuces pour montrer que vous répétez, vous n'avez pas compris. Aristote, le philosophe de l'interrogation. Aristote interroge. Et la première interrogation, qu'est-ce que c'est ? Ce devenir de la nature, distinct du devenir de l'art, qui est le devenir artistique, distinct du devenir du vivant, qu'est-ce que c'est ? Ce désir fondamental de notre univers, ce désir fondamental de tout ce qui nous enveloppe. Nous sommes nés dans un devenir physique, ça c'est sûr. Parce que nous sommes nés sur cette planète. Tous, vous êtes nés sur cette planète. Vous ne l'avez pas choisi. Vous avez fait une chute. Votre âme, ah, c'est un petit peu ça, hein. Il ne parle pas encore de l'âme. Il regarde ce monde physique dans lequel on est tombé. Ce monde physique dans lequel on est tombé, c'est le monde de la corruption. Une corruption terrible. Tout croule. Tout croule. Même les choses les plus solides, ça croule. Vous voyez, quand on voit le devenir, autant qu'on peut le découvrir, de ces fleuves extraordinaires, on voyait ça pour la Seine. Cette petite Seine actuellement, très civilisée, cette petite Seine qui va sur Paris, parce qu'elle est attirée par le civilisé, alors elle va sur Paris. Et avant, cette immense Seine, les bords de la Seine, immense, je n'ai jamais vu, hein, et vous dans bleu, mais on voit les bords de la Seine. C'est très curieux, ces choses-là. C'est que le physique, comme physique, s'use. Et c'est d'une certaine manière la corruptibilité qui domine. Le monde physique s'use. Il s'use. C'est un devenir qui va vers la corruption, la destruction, l'usure. Parce que ça change tout le temps. Il n'y a pas de repos dans le monde physique. Et tout ça, ça fait partie de la description. Qu'est-ce qui se repose ? C'est le vivant. Le vivant, c'est le premier être qui se repose pour échapper au devenir. C'est vrai, quand vous êtes triste le soir, hein, triste, vous avez appris une triste nouvelle, c'est « Ah, qu'est-ce que je vais devenir avec ça ? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Alors, il y a un bon ange qui dit « Dors, dors. » Tu te reposeras, tu échappes comme ça à la roue du temps. Le premier. Et on dort parce qu'on est un vivant. Quand on ne vit plus beaucoup, on a beaucoup de peine à dormir. Dans un monde très civilisé, où le jour et la nuit tendent à disparaître, puisqu'on peut, par un bouton électrique, avoir de la lumière tout le temps. Fausse, mais ça vient, on l'a. Alors ça permet de travailler toute la nuit. C'est très mauvais, vous ne dormez plus. Faites ça plusieurs jours, vous allez perdre la tête. C'est vrai, quand quelqu'un commence un petit peu à ne plus distinguer le vivant et le mort, vous dites, depuis combien de temps tu dors plus ? Dormir, c'est le vivant qui dort. Là, il y a la tentation de la paresse, c'est évident. Mais c'est le vivant. Ma fille, ça c'est moral. Hein. C'est moral. C'est pas vivant. Le vivant dort. C'est extraordinaire de voir que le monde physique pur est un monde purement relatif. Tout le temps le mouvement. Tout le temps le mouvement. Le vivant apporte le sommeil. Il s'arrête. Et l'art apporte la domination de la forme sur la matière. Une statue n'est pas faite pour devenir. Une statue, c'est la conquête du devenir. L'artiste qui fait une statue, qui sculpte dans la pierre, tailleur de pierre, c'est le victorieux contre le devenir. Et là, je suis la phénoménologie. Hein. Et c'est beau du reste de comprendre ça, de comprendre que la vie apparaît tout de suite comme ça, victoire sur le devenir. Et comme je regarde le devenir maintenant, je regarde celui qui pâtit. Le monde physique est un monde où l'on pâtit. On ne retient rien dans le monde physique. Tout est livré au devenir. Tout est livré au devenir. C'est pour ça que le devenir est pessimiste. C'est le monde du devenir est pessimiste. Qu'est-ce qui est victorieux? C'est la vie. La vie n'est pas du tout triste. Hein. C'est le poids du devenir qui est triste. Et toute dépression, c'est le poids du devenir. C'est le poids du physique. Et on doit alors conquérir ce physique pour se remettre à vivre. Alors si on se remet à vivre, oh, on dépasse le devenir. Alors si vous êtes artiste, ah, l'art est toujours victorieux. Et ça a des caractères d'art, ça, dans le monde des artistes. Ils sont victorieux. Et pour passer de l'art à la philosophie, il faut comprendre que être tout le temps victorieux, c'est dangereux. Parce que vous oubliez le poids du réalisme que vous portez en vous. Le corps, le devenir. Et vous allez dépasser cette opposition de celui qui s'arrête, qui dort, de celui qui est tout le temps en devenir. Je crois que c'est la première constatation qu'on doit faire, ça. Une constatation importante, vous voyez. Devenir et repos, la conquête du vivant sur le pur de devenir et se repose. C'est dans ce sens-là qu'il y a chez le vivant non plus uniquement le mouvement, mais il y a un mouvement harmonieux. Le vivant est un être harmonieux. Parce que l'harmonie, ça consiste à le mouvement et le repos. Deux choses se tiennent. Et toute harmonie est faite des deux, un équilibre des deux. C'est déjà un dépassement, un certain dépassement, pas le seul. Le philosophe interroge. L'interrogation est d'ordre intellectuel, c'est l'intelligence. L'intelligence, en interrogeant, dépasse le devenir. Quand vous êtes purement dans le devenir, vous n'interrogez pas. Vous décrivez, vous décrivez. On a vu ça, on voit ça, maintenant ça change. Premier signe du retrait est assommant, celui-là, il interroge tout le temps. Il ne me suit plus. Au moment où vous interrogez, vous quittez le devenir. Et l'intelligence se dresse devant le devenir pour savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que devenir ? Qu'est-ce que c'est que ce devenir physique ? Qu'est-ce que c'est que ce devenir vital ? Qu'est-ce que c'est que ce devenir artistique ? Et ça, il interroge. Qu'est-ce que c'est ? L'intelligence, quand elle interroge, cherche à connaître l'intelligibilité. La conquête de l'intelligence, elle veut savoir ce que c'est. C'est très beau, ça. Oui, je vous ai déjà dit, ça m'avait beaucoup frappé. J'étais au Creusot, tout à fait au début du TGV. Je crois que c'était la première fois où il passait au Creusot. Dans le petit gosse à côté de sa mère. À voir arriver, qu'est-ce que c'est? La mère ne posait pas qu'est-ce que c'est. Non, elle se posait la question, comment monter dans le train? C'était ça. Et il a interrogé le type à casquette. Qu'est-ce que c'est ouvert? Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, qu'est-ce que c'est? D'où Auguste Comte, qui dit, interroger le pourquoi, c'est l'enfant. Le comment, c'est l'adulte. C'est très joli, ça. Hein? Alors, il montre que l'enfance pose la question du pourquoi, du qui est-il, qu'est-ce que c'est. Nous sommes dans un monde où on ne pose plus que la question du comment. Parce que le comment, c'est orienté vers l'avoir. Comment posséder? Comment gagner cette somme d'argent qui me permettra? Ça, vous ne posez pas la question du pourquoi. Le pourquoi de cette somme d'argent, mais non. Tu perdras ton temps. Comment acquérir ça? Le comment et le pourquoi. Mais Auguste Comte a mis ça en pleine valeur. Positiviste. En disant, le pourquoi, c'est l'âge de l'enfant. Et c'est vrai. L'intelligence, quand elle pose le pourquoi, c'est l'intelligence qui se dresse comme intelligence. Pas comme raison, mais comme intelligence. Elle veut savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette réalité. C'est beau, ça. Oui. La féminologie ne pose plus l'interrogation. C'est toujours comment, comment, comment. Le psychologue, comment, comment, comment. On veut posséder la maladie. On veut redonner la santé. Alors, c'est une possession. Tandis que Thiesti, ah, qu'est-ce que c'est que cela? Alors, il pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? La maman répond, TGV. Et c'est une explication de premier ordre. TGV, qu'est-ce que c'est que TGV? Ah, tu sauras ça. Ça renvoie à l'expérience. Quand on sera dedans, on verra bien ce que c'est. Elle refuse. Beaucoup, beaucoup refusent de répondre aux enfants. Quand on refuse, c'est l'été noir. C'est le sacré-saint qui éteint les vierges. Exactement ça, il éteint. Il éteint la petite flamme. Quand on éteint la petite flamme, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un refoulement. Si vous pouviez éteindre et interroger la petite flamme qu'on a éteinte. C'est un refoulement. Elle est éteinte. Quand le refoulement est très fort, votre intelligence s'éteint. Et quand votre intelligence s'éteint, c'est la passion qui passe dessus. Il n'y a plus que la passion. Il n'y a plus d'intelligence. Elle est éteinte. L'intelligence ne s'éveille pas par le comment. Non. Parce que immédiatement il y a quelque chose de bien plus puissant. Je dis bien, bien plus puissant, c'est le désir de posséder. Et le désir de posséder, c'est le point de vue de l'efficacité. On désire posséder. Le fruit du comment, c'est toujours le point de vue de l'efficacité. Alors que le fruit du pourquoi, c'est la contemplation. L'intelligence contemplative s'éveille par le pourquoi. Elle ne s'éveille jamais par le comment. C'est très important, voyez ça, parce que l'interrogation, c'est une intelligence pauvre qui ne connaît pas et elle veut connaître. L'interrogation, c'est le désir de l'intelligence, c'est l'appétit de l'intelligence. Elle interroge, elle avoue qu'elle ne sait pas. L'interrogation, c'est toujours avouer qu'on ne sait pas. Et c'est avouer qu'on a soif de connaître. Qu'on a soif de connaître. Et Aristote, philosophe de l'interrogation, De ce point de vue-là, Aristote est plus proche de Socrate que Platon. C'est Aristote lui-même qui le dit. Socrate était celui qui interrogeait. Il interrogeait les jeunes gens du 16e et de Versailles. Ils interrogeaient. Les jeunes gens très bien. Ils interrogeaient. Et ils voulaient montrer qu'ils ne savaient pas. Ils parlaient bien, mais ils ne connaissaient rien. C'est constamment comme ça. On parle bien, mais on ne sait pas. Alors il interrogeait. Alors on pourrait dire, vous voyez qu'avant Aristote, il y avait Socrate, le philosophe qui interroge. Et le philosophe qui interroge toujours. C'est pour ça que Merleau-Ponty aimait tellement Socrate. Parce que c'est le philosophe qui interroge. Alors, la différence, c'est que Socrate interrogeait du côté moral. Aristote interroge du côté du devenir de l'intelligence. L'intelligence qui s'éveille et qui interroge. Qu'est-ce ? Ce devenir, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez ? C'est très curieux. Déjà, l'interrogation de devenir comme ça présuppose qu'on a distingué divers devenirs. Si vous distinguez divers devenirs, ça prouve que le devenir n'est pas premier.